Hébreux chapitre 1, versets 1 à 6. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est lui que Dieu a désigné pour entrer en possession de tout. Il reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Et il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les hommes de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un nom plus important que le leur. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, « C'est toi qui es mon Fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton Père. » Et il n'a jamais dit à propos d'un ange, « Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. » Mais au moment où Dieu allait envoyer son Fils premier-né dans le monde, il a dit, « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. » Amen. Chers amis, personnellement, les versets 3 et 4 me dérangent. Voilà ce qui est écrit. « Il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges. » Devenu supérieur aux anges. Avec ce genre de phrase, une question se pose tout de suite. Mais à quel moment Jésus fut-il établi comme héritier de Dieu ? C'est-à-dire le Fils de Dieu. À première vue, si on se fie qu'à une lecture superficielle, la réponse serait claire. Il n'était pas héritier du Père depuis le début, si on comprend ça de façon superficielle, mais il est devenu héritier. C'est pas pour vous troubler que je dis cela, parce que je vous avoue, il y a beaucoup de théologiens qui avancent que Jésus est devenu fils de Dieu, mais il ne l'était pas depuis toujours. Certains disent qu'il est devenu fils de Dieu au moment de son baptême, en se basant sur ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 3, versets 16 à 17, lors de son baptême. C'est là où Dieu a déclaré « Voici mon fils bien-aimé ». D'autres disent que ce n'est qu'après la résurrection que Jésus a revêtu le titre de fils de Dieu en se basant sur Romains 1, chapitre 1, verset 4. Et là, on va le lire. Romains chapitre 1, verset 4. Mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Voyez-vous, chers amis, et constatez-le bien que les mêmes textes bibliques, qui sont pourtant nos textes fondateurs de notre foi chrétienne, pourraient être lus, interprétés d'une autre manière différente. Et pour aller encore un peu plus loin dans la réflexion, j'ai lu un article d'un auteur de renom très connu en France qui s'appelle Frédéric Lenoir, qui a écrit un livre qui s'intitule « Comment Jésus est devenu Christ ?» Comment Jésus est devenu Christ ? Voilà ce qu'il avance. Il avance que l'élaboration de la divinité du Christ ne vient qu'au deuxième siècle de notre ère, où il replace l'évangile de Jean. C'est Jean qui a tout construit, l'évangile de Jean, pour démontrer aux gens qu'il est fils de Dieu. Donc, ce n'est qu'au deuxième siècle qu'il a reçu ce titre de fils de Dieu. Donc, il joue avec les dates. Et il ajoute que s'il n'y avait pas les empereurs chrétiens du 4e et 5e siècle pour imposer les décisions des conciles de Nicée jusqu'à Chalcédoine, il n'y aurait pas la figure de l'Église actuelle, mais que de petits groupes d'Églises où chacun aurait ses propres dogmes sur la divinité du Christ. Donc, cette divinité, dit-il, a connu une évolution et ce n'est qu'à partir du concile de Nicée que c'était officiel. J'ai fait ce grand détour pour que nous soyons bien conscients que ce divin enfant qui est né a fait parler beaucoup de lui et continue jusqu'à aujourd'hui à créer des discussions sans fin. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné l'opportunité d'avoir comme péricope aujourd'hui pour la prédication de ce matin pour nous faire bien comprendre et que ça soit clair une bonne fois pour toutes que Jésus a été, il est et il sera pour l'éternité le Fils de Dieu. Son identité divine n'a pas connu d'évolution. Par contre, c'est là qu'il faut faire attention parce que les gens sont trop malins et ils jouent avec les mots. Ce qui est vrai, et qu'il faut bien le souligner, il était Dieu depuis toujours, mais lors de sa venue, mais lors de la venue de ce Fils de Dieu sur terre, c'est là qu'il a accepté qu'on lui a associé avec sa nature divine une nouvelle nature qu'il n'avait pas encore auparavant. C'est la nature humaine qui s'est assimilée à sa nature divine. Donc, sa nature humaine est nouveau. Il est Dieu depuis toujours, mais il a assimilé cette nature humaine et ça, ça a eu un début. Et ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas une intégration, mais une assimilation que son corps humain reçoit pleinement sa nature divine et vice-versa. C'est-à-dire, son corps devient divin et sa nature divine reçoit son humanité. Mais cette compréhension ne fut pas comprise du jour au lendemain. Et ça, il faut l'avouer. Et on le voit bien dans les évangiles, les disciples de Jésus n'avaient pas cru en lui en tant que fils de Dieu qu'après sa résurrection. Donc c'est la compréhension qui a connu une évolution, mais pas son identité. On ne peut pas comprendre du jour au lendemain. Même nous aussi, quand nous lisons la Bible, parfois il y a des versets que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Peut-être après 10 ans que nous allons le comprendre. Et c'est un peu dans ce sens-là. Donc le fait de croire ou pas en Jésus ne change rien sur son identité. Ce n'est pas parce que les disciples n'ont cru en lui qu'après sa résurrection que l'on va dire que ce n'est qu'à partir de ce jour qu'il est devenu fils de Dieu. C'est la confession de foi qui a tout changé. Mais lui, il était déjà Dieu. C'est pour ça que j'ai choisi le thème « Quand Jésus devient mon Dieu ». Avant, il était tout simplement le Dieu. Mais maintenant, quand je confesse, il devient mon Dieu. Et le péricope d'aujourd'hui montre que la révélation de Dieu envers nous a connu l'évolution dans le temps. Verset 1 et verset 2, il est dit « Autrefois, Dieu a parlé, autrefois ». Il a parlé à nos ancêtres, à maintes reprises, et de plusieurs manières, voyez-vous. Autrefois, à maintes reprises et plusieurs manières par les prophètes, mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. Oui, il y a de l'évolution dans sa révélation. Et ces mots que je viens de souligner sont des mots qui s'expriment, qui expriment des actions qui se répètent et qui durent dans le temps. Et à travers cela, nous pouvons constater que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne se fatigue pas, mais qui cherche toujours les moyens pour se révéler à nous. Il est toujours patient envers nous. Si on le refuse aujourd'hui, il revient demain. Il n'abandonne jamais. Il revient après-demain, jusqu'à ce que tu confesseras que tu es mon Dieu. C'est ça le Dieu de la Bible, de l'Évangile. Il ne met pas de limite pour se révéler à nous. Et là encore, j'ose dire, il n'a pas peur du ridicule et de moquerie. La preuve, il vient et prend la forme d'un corps humain qu'il a créé. C'est osé, non? Prendre la forme d'un corps humain que lui-même a créé. Et en plus, dans un corps d'un nouveau-né, il aurait pu venir dans un corps d'un athlète. Mais dans un bébé, c'est la honte pour un Dieu. Il n'a pas peur du ridicule, notre Dieu, parce qu'il nous aime. Et là, il faut encore attendre 9 mois dans le ventre de sa maman pour naître. Il s'est imposé lui-même. Il s'est imposé lui-même les conditions qu'il a décrétées pour un être humain. Il doit attendre 9 mois pour venir sur terre. Lui qui est Dieu, lui qui a le temps dans ses mains, il s'est imposé lui aussi ce temps. Et ce n'est pas fini. Il a fallu attendre 30 ans avant de commencer son ministère. Pourquoi n'aurait pas-t-il commencé à 18 ans? Il est déjà Dieu depuis toujours. Il a attendu 30 ans. Et là, je me suis rappelé d'un texte dans Galates, chapitre 4, verset 4, qui dit « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi de la nature. » Il a accepté la loi de la nature, lui qui est au-dessus de la nature. Quel amour! Lui qui est le maître du temps accepte aussi que le temps fût accompli. C'est plus que de l'humilité. Il a accepté d'être né sous la loi de la nature, les lois de l'homme. Et c'est là que ça coince chez nos amis musulmans, bouddhistes ou animistes. Comment accepter un Dieu qui accepte la loi humaine? Comment accepter un Dieu pareil? Et ça ne se trouve que chez les chrétiens. Il ne s'est pas mis au-dessus du temps, ni au-dessus des lois. Cela pour autant ne veut pas dire que Jésus n'était que Jésus au départ et qu'on l'a déifié plus tard pour construire une religion chrétienne. Au contraire, ce qui devrait se passer, c'est de construire dès le début un mythe extraordinaire, impressionnant, mais non, lui, il n'a pas voulu cela. Le divin enfant qui fut né à Bethléem apparaissait comme un simple enfant, comme tout le monde. Ceux qui pensent que nous avons tout construit pour rendre le christianisme pour une vraie religion se trompent sur un point capital. Et voici le point où le monde se trompe. Ils oublient que Dieu se révèle dans le temps. Il prend le temps nécessaire sans brusquer l'homme. Il peut le faire, mais il se révèle dans le temps. Il prend le temps. Il est Adonai, je suis celui qui serait. Il accepte la règle du jeu. Mais dans ce temps qui est si long, Dieu se révèle à nous. sans nous bousculer, sans nous obliger, sans s'imposer. Voilà le Dieu de Noël. Par conséquent, si nous revenons au verset 4, qui nous posait le problème au tout début de cette prédication avec la phrase « Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges », alors il faut le comprendre à partir de la deuxième partie de ce verset. Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. C'est le titre qui a changé, mais pas son identité. Voyez-vous ? C'est le titre. Il a reçu le titre. Le titre de Fils de Dieu, c'est un peu comme Thomas qui a déclaré « Mon Seigneur et mon Maître ». Le fait de prononcer ces titres de Seigneur et de Maître a son poids dans sa confession de foi. Parce que pour lui, avant, il était déjà Seigneur, il était déjà Maître, il a vu ses miracles, il a vu comment il a ressuscité Lazare, il a vu comment Jésus a marché sur l'eau, il a vu comment Jésus a nourri 5000 personnes, mais ça ne restait que là. Mais à partir de ce jour de la résurrection, c'est là que tout a changé. Et là, il déclara, il est devenu mon maître et mon Seigneur. Alors ici, quand on dit, il est devenu fils de Dieu, c'est qu'il est déjà fils de Dieu, mais c'est moi qui confesse cette fois-ci qu'il est vraiment. C'est une confession de foi, ce qui est écrit dans ce texte. Il est devenu mon fils de Dieu, comme le disait le centurion romain qui était au pied de la croix. Il est vraiment le fils de Dieu. Il se peut que parmi nous aussi, on vienne au culte, on participe aux activités de la paroisse. Il aime le Seigneur, mais ça s'arrête que là. Et parfois on se dit, mais oui, je suis chrétien, je participe à la vie de la paroisse, je viens tous les dimanches, je fais ceci, je fais cela. Oui, peut-être que tu admets qu'il est Seigneur, peut-être que tu admets qu'il est le Maître, mais il ne l'a pas encore assimilé comme son Maître. Est-ce que ce Seigneur est ton Seigneur? Est-ce que ce Maître est ton Maître? Est-ce qu'il est tout simplement le Maître? Chers amis, oui, le monde entier aujourd'hui crie et chante, même de façon inconsciente, « Il est né le divin enfant ». Tout le monde chante ça aujourd'hui. Mais quel type de lien as-tu avec ce divin enfant? Quel est le lien que tu as avec lui? Est-ce ton Seigneur ou juste le Seigneur? Est-ce ton Maître ou le Maître? Toute la différence est là. Et que la promesse de Dieu se réalise, comme il l'a dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen.